en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Merci mesdames et messieurs, monsieur le président, mesdames, messieurs, merci tout d'abord de me recevoir. Je suis extrêmement sensible à ce que je considère être un honneur et il ne va pas sans une certaine appréhension de ma part. Merci mon cher François pour ce que tu as dit. Je voudrais démarrer peut-être par un petit préalable sur ce qui est le titre de cette intervention, la fabrique des sondages, et notamment sur le mot sondage. Je voudrais profiter de cette séance pour vous dire peut-être plus exactement ce que nous faisons dans des instituts comme celui dans lequel j'exerce, ou en tous les cas dans des instituts qui ont des tailles conséquentes, qui sont des groupes mondiaux. Il y en a deux en France, hein, Ipsos et Kantar Public, ex-TNS Sofres. Et c'est important parce que nous ne travaillons en réalité pas, ou très peu, à partir de sondages, et je crois qu'il faut que vous le sachiez. Ce que nous faisons, c'est de travailler sur la base de toutes les données, les data, sans basculer dans la religion du dataïsme, mais les data qui peuvent aujourd'hui exister dans une société, et elles sont de multiples natures. Il y a des données sollicitées et structurées, ce sont les questions que nous posons. Portez-vous un jugement favorable ou défavorable sur Emmanuel Macron. Voilà. Donne lieu à des traitements, du coup, qui sont très faciles et très simples. Il y a des données que nous sollicitons aussi, c'est notre vieux métier, et qui peuvent être non structurées. C'est ce qu'on appelle les questions ouvertes. Quelle image avez-vous d'Emmanuel Macron, par exemple ? Et il faudra traiter ce corpus de texte pour lui donner ensuite une valeur quantitative. Mais il y a énormément d'autres données sur lesquelles nous travaillons, et notamment les données non sollicitées, c'est-à-dire qui ne proviennent pas de nous, et non structurées. Pensez à toutes les conversations sur le web, sur les réseaux sociaux, qui sont une source d'informations absolument colossale. Si aujourd'hui nous nous intéressons, c'est un exemple parmi mille, aux résistances de certaines mères de jeunes enfants à la vaccination, eh bien, nous ne procéderons pas à un sondage. Alors, je sais que je vais devoir parler de la fabrique des sondages, mais je veux vraiment insister sur cet aspect préalablement. Nous travaillerons d'abord sur ce qui se dit dans certains forums, chez certaines jeunes mères, à propos des vaccins. Et c'est comme cela que nous comprendrons véritablement leur résistance, par exemple, à ces vaccins, quitte à faire après, auprès d'un échantillon représentatif de mères de jeunes enfants, une enquête quantitative. Mais ce type de données a un énorme avantage, c'est que ce sont des données spontanées qui existent, des conversations. Et mon métier n'est pas de faire des sondages, encore une fois, il est d'expliquer ce qui se passe dans la société et donc de comprendre ce qui se passe, c'est les citoyens, salariés, consommateurs, même si je ne m'occupe pas vraiment des consommateurs, pourquoi ils font et pensent ce qu'ils pensent et comment essayer d'interpréter et de fournir des informations utiles à des décideurs. Nous avons également et de plus en plus d'autres types de données sur lesquelles nous travaillons et qui nous éloignent encore une fois des sondages. Nous travaillons par exemple énormément sur des corpus de photos, ce qui a modifié entre autres notre métier, c'est cela, parce que cela a modifié le comportement des individus. Il y a 10 ou 15 ans, si vous étiez un grand groupe qui souhaitait savoir dans le monde comment les femmes se lavaient les cheveux, il y a des groupes qui s'intéressent à ce genre de sujet, vous pouviez faire une étude dans 50 pays et demander donc à des échantillons représentatifs de femmes comment elles se lavaient les cheveux. Aujourd'hui, nous leur demandons de nous envoyer des photos. Nous taguons ces photos, c'est-à-dire nous regardons dans quel univers en réalité cela se fait, et nous sommes capables d'analyser avec beaucoup plus de justesse parfois qu'à travers des sondages où c'est nous qui aurions décidé des questions, quelle est la réalité de ce phénomène. J'ai pris volontairement un exemple emprunt, on va dire, au marketing, mais pensez aux manifestations et à ce que l'on peut tirer d'analyse de manifestations par la simple observation. De plus en plus, nous faisons des choses avec des drones, avec des capteurs, avec de l'observation, et tout l'enjeu est d'avoir des traitements quantifiés de ce type de données. Et puis, il y a de multiples autres données dans le domaine public, tout ce qui relève des données publiques et de l'open data. Il y a 20 ans, je faisais des enquêtes pour les municipalités uniquement à partir de sondages, en demandant donc un échantillon représentatif d'habitants de telle ou telle ville, s'ils étaient satisfaits ou pas de la situation, et on déclinait, et on le fait toujours, nos enquêtes en leur demandant leur niveau de satisfaction sur la propreté, sur la sécurité, sur beaucoup de choses. Mais ce qui est intéressant, véritablement, c'est d'être capable de coupler ce type d'analyse et d'observation à une analyse qui existe de données sur la criminalité dans la ville, sur le nombre de mères de famille qui vont donc avoir besoin de crèches dans les mois à venir, sur etc., etc. Et pour nos clients, pour des maires, là en l'occurrence, l'enjeu est de savoir si par exemple la sécurité augmente dans les préoccupations des concitoyens, si c'est en rapport, en relation avec une réalité des actes de délit dans tel ou tel quartier, et on est capable de le mesurer aussi, ou pas du tout, et à ce moment-là, c'est beaucoup plus une problématique de perception. Et vous avez énormément d'autres données qui circulent, et ce que nous cherchons à faire, nous, c'est non pas à intégrer des données, nous ne sommes pas des intégrateurs de données, mais nous devons malgré tout être capables d'intégrer ces données et de les analyser pour répondre à des questions qui sont les questions fondamentales des décideurs de ce pays, dans la sphère publique comme dans la sphère privée. Et cela nous éloigne un peu des simples sondages d'opinion, même si je sais que c'est plutôt cette partie-là qui vous intéresse, et j'y reviendrai, je ne l'évacuerai pas. La deuxième chose que je voulais vous dire en introduction, c'est que pour traiter ces données, nous avons de multiples techniques. Oui, il y a le sondage d'opinion inventé par Georges Gallup en 1938, très bien. Il y a également les études qualitatives, et j'ai beaucoup travaillé sur ces études qualitatives, notamment dans le domaine politique, dans les années 90. Donc des entretiens individuels, non directifs, ou des réunions de groupe projectives. Mais aujourd'hui, nous travaillons avec quoi et autour de quoi ? Par exemple, les neurosciences. On ne peut pas à la fois considérer que les émotions sont à l'origine de très nombreux comportements, voire, disent certains, expliquent beaucoup plus nos comportements que des argumentations rationnelles, et se priver d'une analyse de nos émotions. Alors je l'ai fait avec le CEVIPOF au moment des attentats, où nous avions posé par sondage des questions aux Français pour savoir quelles étaient les émotions qu'ils avaient ressenties lors des attentats de 2015. C'était très intéressant, il y avait d'ailleurs une distribution des émotions de la colère à la peur, en passant par l'indignation, qui variait considérablement selon la sympathie partisane, donc c'était intéressant, mais c'était quand même une façon très primaire de travailler sur les émotions, puisqu'on demandait rationnellement aux individus d'auto-analyser ce qu'ils avaient ressenti. Et je ne suis pas un adepte du positivisme forcené, mais je me souviens quand même de mes cours d'épistémologie et d'Auguste Comte disant que l'individu ne saurait se séparer en deux, dont l'un analyserait tandis que l'autre regarderait analyser. Donc il faut capter les émotions autrement. Nous savons le faire aujourd'hui, et de plus en plus. Par exemple, on peut mettre des caméras et faire ce qu'on appelle du facial coding, c'est-à-dire repérer, en fonction de ce qu'un individu dit, ce qui se passe comme expression dans une assemblée. De la surprise, du dégoût, de l'intérêt, du plaisir, de la joie. Ça se fait dans le domaine politique aux États-Unis, ça viendra en France, soyez-en bien certains. C'est vertigineux par moments, ça pose des tas de questions. Mais finalement, quand je faisais déjà il y a 30 ans des études qualitatives, ce que François a eu la gentillesse de dire que je travaillais depuis 15 ans, mais en fait ça fait depuis 30 ans dans ce métier, quand je faisais déjà des études qualitatives, l'objectif était le même. Il était d'aller plus loin dans la profondeur d'analyse en essayant de comprendre ce que les Français pouvaient ressentir à propos, par exemple, d'un homme politique, non pas en le leur demandant rationnellement et en appelant une réponse rationnelle, mais par exemple avec des techniques projectives. Moi, je demande depuis très longtemps à des groupes comme ça, projectifs, d'imaginer l'homme politique en question quand il était bébé. Et j'ai une typologie des hommes politiques comme des bébés, ce qui me permet tout simplement de comprendre beaucoup plus directement ce que les Français éprouvent en contournant des rationalisations défensives. C'est le principe même des études qualitatives. À travers les neurosciences, nous cherchons aussi à mieux capter et comprendre des émotions, des représentations sur un mode autre que purement rationnel. Et aujourd'hui, ces techniques-là se développent. Je ne sais pas si à la fin vous procéderez à une évaluation de l'intérêt qu'aura eu mon intervention, mais si j'avais pu mettre des caméras là et regarder vos et analyser vos émotions qui peuvent être encore une fois classifiées et codifiées entre l'ennui, je n'espère pas, et l'intérêt, la surprise, le dégoût, que sais-je encore, convenez avec moi que ce serait un formidable outil pour bien comprendre ce que vous ressentez. C'est peut-être très inquiétant, encore une fois, c'est vertigineux, cela pose énormément de questions, mais pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus ? Juste pour vous dire que la réalité de mon métier, la réalité des questions qui se posent dans nos instituts, c'est celle-là, et non pas la fabrique, souvent, simplement des sondages d'opinion. Il me semble important qu'une assemblée telle que la vôtre en soit bien consciente. Nous traitons également de plus en plus des corpus de textes extrêmement importants. Vous n'êtes pas sans savoir que Emmanuel Macron et ses principaux collaborateurs expliquent que pendant la longue marche, pendant la campagne électorale, ils ont administré un questionnaire ouvert à des dizaines de milliers de personnes. Pour traiter ces corpus de textes spontanés, nous faisons appel à des data scientists et à des programmes d'analyse sémantique extrêmement lourds. C'est ce qui aurait permis à l'équipe actuellement en place d'identifier que le problème principal des Français n'était pas le chômage, mais la politique, le fonctionnement de la politique et l'éducation. Et vous voyez bien l'apport de ce type de technique par rapport à des autres outils d'investigation plus classiques tels que les sondages. Nous faisons également de la mesure passive, nous montons des communautés. Bref, il y a de multiples façons de recueillir des données, de les agréger et de les traiter. Mon métier n'est donc pas de sonder, je ne suis pas un sondeur armé comme ça d'une sonde. Il est d'essayer, encore une fois, de comprendre ce que les Français ou des populations pensent, font et pourquoi elles le font, pour permettre ensuite à des décisionnaires d'agir. Et c'est très difficile, il est très difficile aujourd'hui de parvenir à combiner ces technologies, parce qu'il y a aussi une référence à la technologie de plus en plus importante, et le métier, on va dire, classique. C'est pourquoi, quand vous êtes là où je suis, il y a beaucoup de controverses, beaucoup de débats qui vous paraissent un peu décalés par rapport aux enjeux et aux véritables débats qui vont se poser dans la société française et ailleurs sur ces questions d'outils d'investigation. Et ces débats, je les ai connus quand j'étais étudiant et qu'on lisait la polémique Lancelot-Bourdieu. Et de temps en temps, je suis un peu étonné de voir qu'ils reviennent toujours de la même manière, à peine modernisés, alors qu'il y a en réalité tout ce que je suis en train très rapidement d'essayer de vous exprimer sur des nouvelles façons de capter et de traiter des données. Mais une fois que j'ai dit cela, et juste pour vous sensibiliser à cet aspect, je voudrais maintenant centrer mon propos sur, me semble-t-il, ce qui vous intéresse le plus, à la fois en quoi je pense que nos enquêtes d'opinion, et là je vais revenir aux sondages d'opinion, et notamment publiés, puisque c'est ceux-là qui font question, qu'est-ce qu'ils apportent fondamentalement, et puis quelles sont les critiques légitimes que l'on peut adresser aussi à ces enquêtes quand elles sont faites d'une certaine façon. Le premier point que je voudrais souligner, c'est que fondamentalement, je pense que notre métier et que ces sondages d'opinion sont les enfants beaucoup plus de Protagoras que de Platon, qu'ils ont à voir avec une problématique qui est celle de l'opinion. Et dans un débat sur la démocratie, ce n'est pas à vous que j'apprendrai que celui qui exécrait les sophistes s'appelait Platon, mais que son modèle politique de référence n'était absolument pas la démocratie. Et la démocratie, elle part quand même de ce postulat qu'on peut et qu'il faut dissocier la connaissance de l'opinion. Alors il y a des moments heureux et des rêves où nous cherchons tous à réconcilier la connaissance et l'opinion. Je pense que nous rêvons tous d'une opinion qui serait éclairée, rationnelle, qui se fonderait sur de la connaissance et pas sur des choses plus volatiles, la doxa. Mais malgré tout, quand vous êtes dans un modèle politique ou une épistémologie qui met l'accent uniquement sur la connaissance, vous n'êtes pas dans la démocratie. Et beaucoup de critiques à l'égard des sondages d'opinion proviennent de notre malaise, de notre frustration, que je partage aussi. Il est très insatisfaisant de se dire que la démocratie est quand même la fille de Protagoras, au moins tout autant que de Platon ou d'autres. Donc beaucoup de polémiques, de rejet de textes comme « Les sondages sont la pollution de la démocratie », pour ceux qui se souviennent de ce texte déjà il y a 40 ans, proviennent de ce rapport à la démocratie, où nous serions tentés de dire que ce qui n'est pas de l'ordre de la connaissance eh bien, bascule dans ce qui est blâmable ou négatif. Et je crois tout le contraire. Et le sondage, en ce sens, incontestablement, est du côté de l'opinion, puisqu'il cherche à la mesurer. Ça ne veut pas dire qu'il la valorise, ça ne veut pas dire qu'il promeut l'opinion comme déesse ou variable suprême, pas du tout. Mais il cherche, malgré tout, à comprendre et la mesurer. Alors, je pense que c'est une bonne chose. Et la pratique de mon métier va à l'inverse, mon cher François, de ce que tu indiquais au début, à savoir que les gouvernants seraient obsédés par les sondages. J'ai envie de vous dire, si seulement. Quand nous sommes en institut de sondage, et ce que je dis à mes équipes, c'est que si nos clients utilisent 5, 10, 15% de ce que nous ramenons dans nos enquêtes, il faut être content, c'est formidable. Et du coup, je pense que les enquêtes d'opinion, en réalité, participent d'un processus de connaissance, vous voyez bien que j'insiste sur ce mot, connaissance, qui permettent à un décideur de mieux savoir quelles sont les résistances de l'opinion, qui lui permettent éventuellement d'éviter l'enfermement, et qui lui permettent aussi d'éviter le dogmatisme technocratique ou la certitude qui sera ou qui peut être celle d'un modèle politique, enchâsser une théorie de la connaissance qui opposerait les apparences subalternes à la vérité qui serait détenue par seulement quelques-uns à partir d'un processus d'assaise. Donc le premier avantage des enquêtes d'opinion, me semble-t-il, il est celui-là. Et ce sont également des contre-pouvoirs, mais j'ai envie de dire mous, qui, entre les élections, permettent de faire remonter ce que pensent, ressentent, rejettent les Français, à charge ou pas, ce n'est pas contre les institutions, à charge ou pas, ensuite, aux politiques, d'en tenir compte un peu, beaucoup ou pas du tout. Et encore une fois, mon expérience est qu'ils n'en tiennent pas beaucoup compte. Et je ne sais pas si c'est heureux ou pas, je le constate. Alors, ce point explique, je crois, la virulence parfois passionnelle et totalement irrationnelle de certaines critiques à l'égard des sondages. Et je voudrais juste prendre très rapidement un petit exemple, parce qu'il a été analysé, sur la loi qui, pendant longtemps, a interdit la publication des sondages d'opinion une semaine avant le scrutin. Loi qui a été abandonnée, puisque le délai a été ramené, vous le savez, à 24 heures. Mais quand on analyse quels étaient, dans les débats du législateur, dans les débats à l'Assemblée nationale des députés, quelle était la théorie implicite et les a priori implicites sur la décision politique et sur les Français qu'il y a, c'est tout à fait fascinant. Il fallait protéger le citoyen de l'influence néfaste de ces enquêtes d'opinion parce que la décision politique, selon le législateur de l'époque, est une décision qui doit se prendre dans une sorte de silence de la raison où les enquêtes d'opinion viendraient polluer ce citoyen. Et puis ce citoyen, et c'est très clair aussi quand vous analysez les débats, il est conçu comme un mouton qui se laisserait entraîner par ces enquêtes d'opinion et qui se mettrait à voter mécaniquement et évidemment stupidement en faveur de celui qui est toujours annoncé comme étant en tête. Donc en réalité, vous avez une théorie de la décision politique, une théorie de ce que doit être l'information, une théorie de ce dont on doit protéger le citoyen, qui est implicite dans cette interdiction, mais également dans cette relation que beaucoup ont avec les sondages d'opinion. Alors ça me permet de faire la transition vers le débat à peine plus moderne, parce qu'il est en germe dans cette question-là, mais qui maintenant devient de plus en plus prégnant, sur l'influence du vote dans la décision électorale, et notamment sur cette question du vote utile, qui serait totalement gouverné par les sondages d'opinion et qui serait quelque chose de tout à fait négatif. Alors je voudrais juste dire là, à propos de ce deuxième point, qu'il faut d'abord choisir sa critique. On dit souvent que, première critique, les sondages ne sont pas fiables et qu'ils se trompent fréquemment, voire systématiquement. Et dans les exemples récurrents, vous convoquerez le Brexit récemment ou l'élection de Trump il y a peu de temps. Là aussi, je dirais juste qu'il y a un bel exemple de biais cognitif. Il se passe à peu près une quarantaine d'élections tous les ans dans le monde, dans des États libres. Donc il y a des enquêtes d'opinion dans tous ces pays. Sélectionner deux dysfonctionnements sur une série de 40 et en tirer comme inférence que l'instrument est déficient, c'est quand même un véritable biais cognitif. Mais peu importe, il y aurait beaucoup à dire d'ailleurs sur là où les sondages ont failli ou pas, et j'y reviendrai. Le premier point, c'est qu'il y a cette critique, et puis il y a une autre critique, qui est celle de la prophétie autoréalisatrice. Nous aurions un tel pouvoir dans l'espace public que finalement l'élection serait forgée par les mesures antérieures. Alors, je voudrais simplement souligner qu'il faut choisir sa critique. Soit nous nous trompons tout le temps, soit nous fabriquons le résultat. Mais ça ne peut pas être l'un et l'autre. Que nous nous trompions fréquemment ou pas, cela s'objective. Cela se mesure, cela s'objective, et on pourrait le faire. Et sur la prophétie autoréalisatrice, pardonnez-moi, mais ça fait partie des plus belles âneries qu'il m'ait été possible d'entendre. Parce que si c'était le cas, eh bien, Alain Juppé aurait remporté la victoire et jamais des courbes de sondage ne pourraient se modifier ou se croiser. Donc, bien évidemment, c'est la campagne qui fait l'élection et les outils sont là pour mesurer des mouvements d'opinion qui, eux, varient considérablement. Ce ne sont pas les sondages qui fabriquent le résultat. Pas plus, donc, ils se tromperaient tout le temps. Mais cette question de la fiabilité des enquêtes est la question centrale. Parce qu'effectivement, une part croissante de citoyens, ça c'est incontestable, tient compte des résultats que nous pouvons annoncer ou donner dans une campagne électorale pour éventuellement revisiter son vote. Si ces enquêtes sont fiables, je pense, et je vais vous dire pourquoi, que nous jouons un rôle utile. Si elles ne le sont pas, c'est évidemment désastreux. Et là, on peut considérer qu'il y aurait une influence néfaste des enquêtes. Donc je vais revenir dans un instant sur la question de la fiabilité. Juste pour vous dire pourquoi je considère qu'il est bon dans une démocratie que des citoyens puissent avoir une information donnée par des enquêtes d'opinion de type comportemental, l'intention de vote, et puissent en faire l'usage qu'ils souhaiteraient. Je vais prendre deux exemples, et je vais en prendre un volontairement un peu polémique, puisqu'on m'en reparle presque 25 ans après, qui est celui du 21 avril 2002. Durant cette période, aucune enquête d'opinion n'a indiqué, notamment dans la semaine qui précédait le scrutin, que le candidat Jospin allait être disqualifié au second tour au profit de Jean-Marie Le Pen, même si la tendance, mais peu importe, avait été clairement énoncée. Imaginons qu'à 3 jours du scrutin, plusieurs enquêtes aient indiqué que Jean-Marie Le Pen passait devant Lionel Jospin. Il y aurait eu, je crois, 2 conséquences qu'il faut envisager. La première, c'est d'abord que ces enquêtes auraient été immédiatement décriées par l'opposition qui aurait dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce sondage qui, à 3 jours du scrutin, cherche à remobiliser en faveur de Lionel Jospin ?» Bon, ça, c'est la polémique. Mais la vraie question, c'est que peut-être, oui, peut-être qu'une fraction d'électeurs qui a voté pour Besancenot, pour Taubira, pour Chevènement, qui est allé dans l'abstention, se serait remobilisé en faveur de Lionel Jospin dès le premier tour. Et je pourrais revenir, si vous le souhaitez, dans les questions sur ce que j'ai vu dans des enquêtes qualitatives à cette époque. Alors, convenez du paradoxe. Imaginons qu'effectivement ces enquêtes aient provoqué un tel effet. Bien, Lionel Jospin, à ce moment-là, aurait été qualifié. Qu'est-ce qu'on aurait dit? Que les enquêtes s'étaient trompées. Donc il y a toujours un effet quand même en boucle qui devient un peu difficile à gérer. Mais l'autre aspect, c'est, est-ce un mal? En quoi serait-il néfaste pour la démocratie qu'une information de ce type soit prise en compte ou pas par certains électeurs qui décident ensuite donc de revisiter leur vote et de se dire « je comptais voter pour Lionel Jospin au second tour, mais pas au premier tour, plutôt pour Christiane Taubira parce qu'il faudrait une politique plus à gauche ». C'était ça le raisonnement de ces électeurs. Et qui, sur la base de ces enquêtes, se dirait « bon, finalement, je vais quand même voter pour Lionel Jospin dès le premier tour ». C'est exactement ce qui s'est passé en 2017 aussi avec une fraction d'électeurs non négligeables de gauche qui ont voté pour Emmanuel Macron parce qu'ils ne voulaient pas avoir une confrontation et un choix, du coup, entre François Fillon et Marine Le Pen. Mais ma question, encore une fois, est pourquoi serait-ce une régression? Il y a dans les stéréotypes, de mon point de vue, qui circulent, cette opposition entre ce que serait un vote de conviction et un vote stratège ou utile qui serait un vote dégradé. Eh bien là encore, je crois que vous avez en réalité une axiologie implicite et qui ne se dit pas derrière la critique du vote utile. Personnellement, je préfère le vote utile au vote inutile, même si j'ai le plus grand respect, et c'est très intéressant, pour les électeurs qui votent pour un candidat en sachant qu'il sera ultra-minoritaire. Mais convenez avec moi qu'il est tout à fait paradoxal de considérer que les sondages d'opinion pervertiraient la décision électorale en donnant à certains électeurs la possibilité d'avoir un vote qu'on peut considérer comme très responsable sur les conséquences éventuelles de leur vote au premier tour. Donc, de ce point de vue, j'ai envie de vous dire, vive les enquêtes d'opinion et les enquêtes d'intention de vote, si elles apportent une information supplémentaire de ce type, à condition, bien évidemment, c'est central, qu'elles soient fiables. Troisième petit point, et ensuite j'en viendrai à la critique que je m'adresse aussi et que je crois qu'il faut poser sur la table de ces enquêtes. Mais troisième point sur leur utilité. Une fois qu'on a ce que j'essaye de faire, redit quelque chose sur leur lien profond avec la démocratie et puis également avec la capacité pour les uns et pour les autres d'avoir des votes, on va dire, éclairés. Le troisième avantage que je vois à ces enquêtes, c'est de permettre d'objectiver le débat public sur certains aspects et sur des aspects qui peuvent être fondamentaux. Alors, j'ai quelques souvenirs particulièrement vivaces en ce sens. Et je voudrais évoquer là ce qui s'est passé, c'était tout à fait fascinant, au moment de la primaire socialiste de 2011. Parce qu'il y avait aussi un intérêt qui est qu'on faisait les premières enquêtes de primaire à cette époque. Quel était le discours ambiant qui circulait ? Que cette primaire, qui était une première en France, allait mobiliser un corps électoral extrêmement restreint, ce qui était évident, et que donc cela ferait le jeu de Ségolène Royal, puisqu'elle allait capter le vote des sympathisants socialistes, les plus socialistes, et qu'elle avait un lien, disait-on à l'époque, tout à fait étonnant, puissant, on parlait même de secte pour certains, avec cette frange de l'électorat socialiste. Donc vous aviez de multiples discours et de doctes analyses qui vous expliquaient pourquoi Ségolène Royal, bien sûr, surtout 4 ans après la victoire de Nicolas Sarkozy, allait prendre sa revanche et être désignée par ce corps électoral. J'ai produit à l'époque la première enquête, c'était une enquête Ipsos, donc à la fin du mois d'août, pour France Télévisions, Radio France et d'autres médias, la première enquête donc pour les primaires, qui nous disait François Hollande largement en tête, suivi de Martine Aubry, suivi très loin derrière, je crois que nous avions de mémoire, mais j'ai les chiffres là, 13%, très loin derrière dans cette première enquête par Ségolène Royal. Qu'est-ce que nous avons pris, pardonnez-moi ? D'abord de la part des responsables politiques qui nous ont accusés de manipulation, etc., etc., mais également par rapport à tous les commentateurs qui étaient face à une information qui venait démentir leurs croyances. Et je pense qu'ils avaient des croyances ou à minima des raisonnements fallacieux. Deuxième enquête réalisée, Ségolène Royal a demandé à la haute autorité d'interdire ses enquêtes, hein, je le signale en passant. Deuxième enquête après le premier débat, non seulement nous confirmons mais nous amplifions parce que la dynamique d'Arnaud Montebourg était déjà mesurée et cette fois-ci Ségolène Royal passait je crois à 10 ou 11%, le résultat final c'est 7%. Nos enquêtes avaient juste permis, dans le débat public, de dire non, Ségolène Royal, ce n'est plus la candidate souhaitée par le corps électoral qui va se mobiliser. Eh bien, je crois que c'est bien d'avoir des outils de ce genre. Et je pourrais multiplier les exemples où des responsables politiques affirment de manière péremptoire, par exemple, que ce sont les sujets identitaires qui aujourd'hui préoccupent le plus les Français. Eh bien, heureusement que nous avons des enquêtes d'opinion qui permettent de cerner leurs préoccupations et d'être un peu plus nuancés. Et, par exemple, de dire que le pouvoir d'achat ou les inégalités aujourd'hui constituent plutôt leurs premières préoccupations. C'est le troisième élément que je voulais souligner. Je crois que dans une démocratie, mais même dans un débat, il est bon que nous puissions poser des instruments qui permettent de mesurer des perceptions à des mantras. Alors les mantras des politiques, pendant longtemps, ça a été le terrain contre ces enquêtes, ou à des raisonnements qui peuvent être parfois extrêmement intéressants, mais également totalement faux. Et cela fait partie, je pense, des atouts de nos outils. Alors pour autant, et après vous avoir fait cette défense et illustration de ces instruments, mais qui n'est pas chez moi, faites-moi le crédit, une post-rationalisation de mon métier qui est ce qui fait que je fais ce métier, que je le fais avec passion et que je le défends aussi par rapport à un certain nombre de critiques que j'estime illégitimes. Pour autant, il y a de bonnes questions et de bonnes critiques, je crois, à adresser au sondage. Je vais mettre de côté tout de suite, et tous les instituts le font, je me suis livré à l'exercice, les sondages totalement stupides ou sans intérêt. Un de mes confrères a un jour posé cette question que je trouve jubilatoire, aimez-vous rire ? Eh bien, nous avons beaucoup appris, et grâce à ce sondage, 97% des Français aiment rire. Je salue les 3% qui ont répondu non. Ipsos n'est pas exemple de tels reproches. On est capable de faire de belles enquêtes aussi sur le dessert préféré des Français ou ce genre de choses. Bon, mettons ça de côté, ce sont des enquêtes marginales qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. La première question, c'est celle de la représentativité de nos échantillons et de la fiabilité de ce que nous disons. Et c'est une obsession. Si vous prenez l'observation de très nombreux cas, en France et à l'étranger, de nos enquêtes d'intention de vote, qui ont un intérêt, c'est qu'on peut les confronter à la réalité. L'outil, loin d'être déficient, n'est pas parfait, je le dis tout de suite, mais fonctionne quand même relativement bien. Il l'a démontré à nouveau lors de la dernière présidentielle, à condition que nous fassions un travail permanent sur nos modes de collecte et sur nos échantillons. Un travail permanent, ça veut dire que, oui, nous confrontons, nous faisons de la R&D et nous confrontons ce que donnent les résultats avec une administration en face à face, ou par téléphone, ou en online, pour sélectionner les modes de recueil qui ont tous des biais, qui sont les plus performants. Nous travaillons énormément sur les quotas, pour avoir dans nos échantillons, par exemple, pas simplement le bon quota de gens âgés de plus de 65 ans, mais également des gens âgés de 70 ans ou 75 ans qui vont voter. Donc nous raffinons nos quotas. Nous travaillons sur nos quotas de diplômés et de non-diplômés, parce que nous avons des biais sur une variable qui est extrêmement importante. Donc le premier enjeu, c'est véritablement d'interroger la représentativité des échantillons. Et croyez bien que nous sommes forcément confrontés à cette question, parce qu'elle est au cœur de notre activité. Donc même si nous ne le faisions pas dans un souci d'utilité publique, pour toutes nos enquêtes privées, et donc nos clients privés y sont attentifs, il y a là une question absolument décisive. Deuxième élément, sur les questionnaires et dans les critiques que l'on peut adresser. Globalement, en France, nous avons une bonne école en termes d'instituts de sondage. Je salue, je le dis d'autant plus que je salue mes aînés qui ont forgé, je crois, des choses de qualité pour faire en sorte que ces enquêtes soient bonnes dans la formulation des questions. Mais il peut y avoir, et je voudrais vous retrouver un petit exemple, il peut y avoir des enquêtes qui produisent des questionnaires biaisés. Alors, comme je l'ai écrit, et j'ai tendance plutôt à dire les choses telles qu'elles sont, sans biaiser, je voudrais vous donner un exemple d'une question que je considère comme totalement biaisée, mais qui a été importante, qui a été posée par mon confrère Odoxa, à la veille de l'émission politique du 14 avril 2016, dans laquelle François Hollande était l'invité. Enquête qui a été publiée le jour même de cette émission, et qui a donné lieu, le résultat, à un battage médiatique assez extraordinaire. La formulation de la question était « Compte tenu de son impopularité actuelle », formulation qui d'emblée introduit ce qu'on appelle un effet de cadrage, « François Hollande devrait-il annoncer qu'il renonce à se présenter à l'élection présidentielle afin de, second biais et non des moindres, permettre à la gauche d'avoir le temps de trouver un meilleur candidat ?» Eh bien, je salue les 23% de Français qui ont réussi à répondre non. Donc ça, c'est un cas d'école, parce que la question est biaisée. Les médias reprennent cette question sans regarder comment elle a été posée, et que vous avez ensuite, à l'arrivée, eh bien évidemment, dans l'émission, on confronte le candidat, ou en l'occurrence, là, le président, à ce résultat, en lui demandant « Alors, puisque plus de 70% des Français pensent que vous ne devriez pas vous représenter, est-ce que vous allez vous représenter ?» Question à laquelle il ne peut évidemment pas apporter de réponse, tout le monde le comprend, et vous avez un petit jeu où tout le monde est content. L'immense majorité des Français, puisqu'à l'époque, François Hollande était immensément impopulaire, les médias, qui ont eu une information, l'Institut de sondage, qui a fait le buzz, comme on dit vulgairement, etc., etc. Bon, ce type de questionnement est évidemment catastrophique. Je pourrais donner quelques autres exemples, et non des moindres, sur, par exemple, des sujets comme la PMA, où vous voyez des choses tout à fait fascinantes parfois sortir quand vous revenez à la façon dont la question a été administrée. Mais je voudrais aussi souligner que c'est très marginal, que c'est très minoritaire, et que nul n'est à l'abri d'une mauvaise question, pas par un souci de manipulation. Quand il y a une mauvaise question, c'est souvent parce que nous travaillons dans des conditions de rapidité, de difficulté, qui font que le biais, et c'est un art d'écrire un questionnaire équilibré, le biais peut apparaître. Mais bien évidemment, quand on est critiqué sur de mauvaises questions, il est légitime d'être critiqué. Troisième élément, dans ce qui fait de mauvaises enquêtes, dans la fabrique des sondages, le rythme et le moment. Moi, je suis un partisan des sondages qui ne devraient pas être des sondages à chaud, au moment où l'événement se produit. Sincèrement, j'ai beaucoup plus de mal. Alors, nous publions beaucoup moins que certains de nos confrères, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, mais parce que la tendance est de réaliser l'enquête en 24 heures immédiatement après l'événement, ce que je pense fondamentalement qu'il ne faut pas faire. Donc là, ça devient un petit peu compliqué. Nous avons aussi de plus en plus, c'est lié à l'économie des médias dans les sondages publiés, sur des sujets complexes, des questionnaires en 3 questions, là où il en faudrait 8, 10, 12 pour essayer d'un peu cerner la complexité du sujet. Donc c'est une critique légitime qu'on peut faire aussi sur le moment et la rapidité des enquêtes d'opinion. 4e point, et non des moindres, mais il faut soulever le capot, les outils. Quels outils utilisons-nous ? Alors, pendant la présidentielle et avec le CEVIPOF, Ipsos a mis en place un panel, un vrai panel, au sens propre du terme, c'est-à-dire ce sont les mêmes électeurs que nous avons suivis pendant 18 mois et que nous réinterrogeons. Donc, un panel d'électeurs, et non pas des échantillons renouvelés, en partant d'un échantillon de 24 000 électeurs. C'est un outil de connaissance prodigieux, parce qu'à ce moment-là, vous pouvez suivre les itinéraires. Donc, vous pouvez véritablement faire des analyses précises. Vous avez parfois, dans les campagnes électorales, 2 intentions de vote à, mettons, 10 jours d'intervalle qui vont vous donner les mêmes résultats pour le candidat. Et on va en déduire, il est stable. Ce peut être totalement faux. Parce qu'en réalité, vous avez des mouvements permanents avec des électeurs qui quittent ce candidat, mais il en attire d'autres. Donc l'apparente stabilité dissimule des mouvements extrêmement profonds dans l'électorat. Si vous avez un panel, vous pouvez suivre ces électorats-là. Et je pense que notre métier est d'éclairer, vous avez bien compris que je parle de connaissance et pas de prédiction, mais je ne refute pas non plus la prédiction, mais et d'éclairer les commentateurs et la société sur la mécanique des représentations et des comportements et des effets de l'actualité qui peuvent intervenir, par exemple, dans une campagne électorale. Donc, de ce point de vue, oui, je crois qu'avec un panel, on apporte quelque chose dans la compréhension des phénomènes. Mais je crois aussi, compte tenu de la mobilité de plus en plus grande de l'électorat, que si on veut suivre jusqu'au bout une élection, eh bien qu'il faut ce qu'on appelle des rolling polls et donc des intentions de vote quotidiennes. Et j'entends déjà les cris d'orfraie de certains disant « c'est insupportable qu'il y ait autant de sondages ». Mais là encore, il faut choisir sa critique. Soit l'on considère que les sondages ne sont pas fiables, soit on leur donne la possibilité de mesurer une opinion de plus en plus volatile, et à ce moment-là, il faut le faire jusqu'au bout. Donc des panels, des rolling polls, et encore une fois, de la recherche en permanence pour mesurer les effets des questions, mesurer les modes de recueil qui sont les plus appropriés, etc., etc. Et puis les 2 derniers points, et je m'arrêterai là pour laisser la place aux questions, que je voudrais souligner, c'est que dans ce qui constitue à mes yeux un bon exercice du métier ou un mauvais exercice du métier, il y a tout simplement l'indépendance de l'Institut, et puis des questions de déontologie ou des valeurs. Pardonnez-moi de le dire aussi simplement que cela, mais je considère que nous devons, en tous les cas c'est un effort vers lequel il faut en permanence tendre, être indépendant, neutre, explicatif, et c'est une logique qui n'est pas toujours facile de tenir, mais qui doit être extrêmement précieuse et permanente pour nous. Donc l'indépendance de l'Institut et les valeurs et la déontologie qui l'anime, c'est un élément central. Et enfin, je ne suis pas du tout hostile à de la régulation, notamment par la commission des sondages, à la fois parce que je suis quelqu'un qui se soumet à la loi, et que quand la loi, de toute façon, a été votée, j'estime qu'elle est quand même, la plupart du temps, légitime, et parce que je pense qu'il est nécessaire aussi qu'il y ait un minimum de régulation sur la qualité de nos échantillons et sur la façon dont nous procédons. La limite difficile, c'est que nul n'est capable de dire quel est le bon redressement ou la bonne formulation de questions, et ce n'est pas une instance, là pour le coup, je crois, juridique, quelle qu'elle soit, de dire aux instituts comment il faudrait poser les questions ou quel redressement il faudrait faire, ce qu'ils se gardent bien de faire. Mais en tous les cas, il faut qu'il y ait un minimum de régulation si on veut s'assurer des conditions de qualité de ces enquêtes d'opinion. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire en introduction. Je ne doute pas que les choses les plus intéressantes proviendront de vos questions et non pas de ce rapide examen de la fabrique des sondages.